Bonsoir et bienvenue dans BFM Grand Soir. 48 heures après sa condamnation qu'il enverra en prison, Nicolas Sarkozy prend la parole. Dans les colonnes du JDD, l'ancien président de la République répète qu'il est innocent. Dans un instant, nous serons notamment avec le journaliste qui a interrogé Nicolas Sarkozy. Comment était-il ? Quel était son état d'esprit ? Qu'y a-t-il dit ? D'abord, découvrons les principales déclarations de l'ancien chef de l'État. Mathilde Couvillier-Flornoy s'est penchée sur cette interview.
Il a réagi à sa condamnation. Dans les colonnes du JDD, Nicolas Sarkozy continue de clamer son innocence.
Je suis innocent et je ne cesserai le combat que lorsque j'aurai obtenu la vérité, c'est-à-dire la reconnaissance de mon honnêteté.
Condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt et exécution provisoire, il crie au complot formulé par Mediapart.
Le plus probable est que ce document Mediapart soit un faux. S'il y a un faux, c'est qu'il y a eu des faussaires, des manipulateurs et donc un complot.
Il dénonce également une injustice calomnieuse.
Dans un monde normal, c'est l'ensemble de l'accusation qui aurait dû s'écrouler. C'est aller encore plus loin que ce que je pouvais imaginer. Toutes les limites de l'état de droit ont été violées.
Tout au long de son interview, l'ancien président de la République a mis en avant sa combativité.
Je ne plierai pas face aux mensonges, aux complots et à l'insulte. On peut m'incarcérer, mais on ne pourra jamais me faire mettre à genoux.
Concernant cette future incarcération, Nicolas Sarkozy ne souhaite pas être gracié par Emmanuel Macron.
Pour être gracié, il faut accepter sa peine et donc reconnaître sa culpabilité. Jamais je ne reconnaîtrai ma culpabilité pour quelque chose que je n'ai pas fait.
L'ex-président a été convoqué le 13 octobre prochain par le parquet national financier qui lui indiquera la date de son entrée en prison.
Et pour en parler, nous sommes avec Antonin André, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef du service politique JDD. C'est vous qui avez réalisé l'interview de Nicolas Sarkozy, merci d'être avec nous. Laurence Saillez, bonsoir.
Bonsoir.
Ancienne députée européenne, merci d'être là. Serge Faubert,
bonsoir.
Journaliste et directeur de la rédaction de Pure Politique. Maître Carbon de Cèze, bonsoir.
Bonsoir madame.
Vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris. Et Laurent Valdiguier, bonsoir.
Bonsoir Amélie.
Journaliste d'investigation, consultant BFM TV. Antonin André, on le disait, c'est vous qui avait réalisé cette interview de Nicolas Sarkozy au lendemain de l'annonce de sa condamnation. Un long entretien, une dizaine de pages. Est-ce qu'il ressentait le besoin de parler, Nicolas Sarkozy ? Vous avez dû le convaincre ?
Non, je pense qu'il avait besoin de s'exprimer et qu'il a fait le choix de la presse écrite parce que une interview dans la presse écrite vous permet quand même de maîtriser fortement votre parole. Sa déclaration à la sortie du tribunal était une déclaration extrêmement forte qui s'adressait à tous les Français. Et ensuite, je pense qu'il avait besoin d'avoir une expression qui soit à la fois maîtrisée, détaillée.
Moins spontanée ?
Oui, on est quand même dans une affaire judiciaire dans laquelle il y a encore des enjeux très lourds pour lui. C'est-à-dire qu'une possible incarcération, un procès en appel. Et donc, évidemment, que pour s'exprimer, il a besoin d'un cadre dans lequel il garde une forme de maîtrise de temps et d'emploi des mots pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir exprimer exactement à la fois ce qu'il ressent et à la fois ce qu'il reproche ou ce qu'il conteste dans l'épreuve judiciaire qui l'accable.
Et alors, comment vous l'avez senti ? D'abord, où s'est déroulée l'interview ?
Dans les bureaux de Nicolas Sarkozy, rue de Miromesnil. C'est vrai que quand vous êtes journaliste politique, moi j'avais déjà interviewé Nicolas Sarkozy, j'ai interviewé François Hollande, j'ai côtoyé Jacques Chirac. C'est des moments qui sont toujours un peu particuliers. Et là, évidemment, 24 heures après sa condamnation à de la prison ferme, on s'attend à trouver un homme qui, peu ou prou quand même, dans le cadre feutré de son bureau avec ses collaborateurs, peut montrer une forme d'affect ou d'abattement. Et en réalité, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, et on en a eu la démonstration, vous entendez son pas décidé dans le couloir, vous le voyez arriver avec son buste et ses épaules en avant, il vous serre la main, il vous accueille de façon très chaleureuse. Et en fait, on comprend assez vite, quand on s'assoit avec lui et qu'on commence l'entretien, que c'est un homme sur lequel plus vous frappez, plus vous attaquez, plus vous alimentez sa force et sa détermination. Et c'était, je dois le reconnaître, assez impressionnant de voir à la fois la solidité, la précision de ses réponses et une forme de détermination qui émanait de lui et qui est aussi un message adressé au juge. Il le dit d'ailleurs dans l'interview. Vous ne m'atteindrez pas, vous ne me toucherez pas, je ne flancherai pas.
Donc c'est ce qui ressortait, vous disiez, vous l'avez interviewé à plusieurs reprises.
Oui.
Donc là finalement, et c'est vrai qu'on ne s'y attend pas, il semblait plus fort que d'habitude, plus
en
sûr
fait,
de lui.
C'est pas totalement une surprise. Je connais Nicolas Sarkozy depuis assez longtemps pour avoir couvert sa campagne en 2007, l'avoir suivi quand il était à l'Élysée. C'est un animal politique, une force physique qui est assez rare dans le monde politique aujourd'hui et qui réagit lorsqu'on l'attaque par un surcroît de détermination et de force. Donc, et c'est d'ailleurs le message qu'il dit au juge. Vous voulez m'abattre, in fine, je prouverai mon innocence et tous les coups que vous me portez aujourd'hui, je m'en nourris pour ajuster ma riposte et démontrer mon innocence. On peut être pour ou contre Nicolas Sarkozy, on peut penser ce qu'on veut de cette affaire. Ce fait-là, cette donnée-là, on l'a mesurée et on l'a vraiment éprouvée lors de cette interview.
Vous dites qu'il avait l'air combatif. Il y a eu une déclaration notamment qui nous a interpellés, c'est celle-ci, quand il dit « Je m'attendais à tout, mais pas à cela, je le reconnais ».
Oui.
Il est tombé de haut ?
Oui. Et on peut le comprendre. Je vous dirais que moi, je ne suis pas un spécialiste des procès comme M. Valdiguier, comme M. Carbonsès, donc je n'ai pas leur expertise. Mais lorsqu'on lit et qu'on assiste au prononcé du verdict, l'exécution provisoire, qui donc envoie Nicolas Sarkozy en prison, donne le sentiment d'un acharnement. Pourquoi ? Parce que quand on regarde les motifs qui motivent une exécution provisoire, vous avez le risque de trouble à l'ordre public, qui est d'ailleurs invoqué dans le prononcé du verdict. Trouble à l'ordre public, et maintenant Nicolas Sarkozy, on ne voit pas bien ce que cela signifie, étant donné qu'il s'est présenté à toutes ces auditions, il a répondu à toutes les sollicitations du
Donc
parti financier.
C'est ça qui l'a choqué ?
Oui, la gravité des faits, je rappelle que les deux principaux chefs d'accusation de corruption et de détournement de fonds publics sont abandonnés par le jugement. Le délit de fuite, on ne voit pas Nicolas Sarkozy, qui est l'un des visages les plus connus aujourd'hui en France, vouloir fuir vers l'étranger. Et en fait, cette exécution provisoire, toutes les personnalités qui étaient dans la salle, y compris les journalistes, et on entend aussi sur les antennes d'éditorialistes, quel que soit leur bord politique, est incompréhensible et perçue, ou en tout cas alimente, le sentiment d'un acharnement contre Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que les juges, innocents ou pas innocents, ce qu'ils veulent, c'est l'image d'un président de la République derrière des barreaux. Voilà ce que ça renvoie.
On va revenir sur ces propos-là, sur cette exécution provisoire. Évidemment, on aura beaucoup le temps de parler de cette interview, mais je voudrais d'abord revenir sur son état d'esprit. Avec vous, Laurent Saillez, avec une autre déclaration, « Je suis innocent et je ne cesserai le combat que lorsque j'aurai obtenu la vérité, c'est-à-dire la reconnaissance de mon honnêteté. » Laurent Saillez, vous le connaissez très bien, Nicolas Sarkozy, il n'est pas du genre à jeter l'éponge.
Ah non, la manière dont il est décrit, c'est exactement le Nicolas Sarkozy qu'on connaît quand on le connaît personnellement. C'est vraiment, et je suis pas dans l'idolâtrie, mais c'est vraiment, je vous assure, c'est quelqu'un d'hors du commun. J'ai eu à rencontrer quand même plusieurs personnes qui ont des responsabilités. Il a une force qui est incroyable. Et je peux vous assurer que même là, si vous alliez le voir et que vous essayez de voir s'il va bien ou pas bien, la première chose qu'il vous demanderait, c'est déjà de vos nouvelles. C'est quelqu'un qui a une force hors du commun. Et je comprends qu'il est blessé parce qu'il est innocent, parce qu'il a le sentiment d'être dans l'injustice. Et Nicolas Sarkozy déteste l'injustice de manière générale. Ça l'a beaucoup animé, si vous voulez, dans son mandat et dans ses combats. Et si vous voulez, d'imaginer qu'en fait, rien ne justifie, on peut débattre des éléments de droit, et je crois que beaucoup de choses ont été dites sur le sujet, qu'il soit là, justement, ce mandat de dépôt, et qu'il aille en prison, alors même que rien ne gênerait dans le fait qu'il soit en liberté lors de son appel, puisqu'il est présumé innocent. Ça, cette injustice, il la vit mal, mais rien ne l'abattra. Et la phrase que j'ai préférée, c'est quand il dit « Vous pouvez m'incarcérer, mais je ne mettrai pas, rien ne me fera mettre à genoux ».
Mais justement,
c'est exactement ça.
Regardons cette déclaration, vous faites bien d'en parler. « Je ne plierai pas face aux mensonges, aux complots et à l'insulte. On peut m'incarcérer, mais on ne pourra jamais me mettre à genoux. » Maître Carbonsès, ce sont des mots extrêmement forts. Il parle de complot dans cette déclaration notamment.
Oui, madame, vous avez raison, il en parle depuis le début, ça n'est pas une ligne de défense.
Mais là, il le répète, nouvelle, il persiste et signe. Hein.
Oui, il persiste et signe. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise d'autre ? À partir du moment où le jugement lui-même vient accréditer cette thèse, puisqu'il signale que le document de Mediapart qui met le feu aux poudres en termes de poursuites judiciaires est taxé de faux dans le jugement. Donc, évidemment, dans le cadre d'une ligne de défense, à partir du moment où ce qui a convaincu le PNF d'enclencher les poursuites est taxé de faux, on se demande de qui provient le faux et comment il a pu paraître probant. Donc ça, c'est une ligne de défense qui est tenue par le président Sarkozy et ses conseils depuis le début. Simplement, il faut noter une chose, hein, c'est que le jugement fait 380 pages, qu'il est extrêmement bien motivé et que ça n'a pas suffi, malgré le fait que le jugement reconnaisse la qualité de faux à ce document, à convaincre le tribunal de l'exonérer complètement de sa responsabilité, puisque le tribunal est quand même rentré en voie de condamnation, et sévèrement, puisqu'il lui a donné le maximum de la peine encourue du chef d'association de malfaiteurs. Donc si vous voulez, il suffit pas de dire que c'est un faux, il suffit pas de dire qu'on est victime d'un complot, il faut, face à une accusation qui a quand même été structurée, fut-elle erronée au sens de la défense, il faut convaincre du caractère erroné de la chose. Il suffit pas d'être victime d'un complot en droit pour être innocent des faits dont on est poursuivi.
En droit et en matière, en la matière, est-ce que le doute ne doit pas profiter à l'accusé? C'est-à-dire que on a le sentiment que
le tribunal
on inverse la charge de la preuve. C'est-à-dire que c'est à Nicolas Sarkozy de démontrer son innocence et non pas au tribunal de démontrer sa culpabilité. Vous comprenez que ça interroge un tout petit peu le grand public qui assiste à ce verdict-là. Vous nous expliquez, c'est à lui de démontrer son innocence.
Pardon,
maître.
C'est
au tribunal de démontrer sa culpabilité.
C'est à lui de démontrer. Non. C'est vous qui êtes en train d'inverser. Il suffit pas, en droit, de dire qu'on est victime d'un complot pour être exonéré des charges qui pèsent sur vous.
C'est pas ce que j'ai dit. La démonstration de la culpabilité.
Qu'elle emporte ou non votre conviction.
Mais vous la trouvez convaincante?
Moi, j'ai été surpris par la qualité de l'articulation du jugement. J'ai lu les 380 pages et je peux vous dire que sur les flux financiers, il y a une démonstration qui est étonnante. Maintenant, ça n'atteint en rien la présomption d'innocence. Je vous rejoins tout à fait sur le sujet de l'exécution provisoire qui est en général motivé par un problème une question de réitération et de risque de réitération. Monsieur Kadhafi étant décédé, je vois mal où est le risque de réitération de la part des différents acteurs.
Donc là, vous avez des réserves sur cette exécution provisoire.
En droit, j'ai des réserves. Mais vous savez, ces réserves, elles sont exprimées depuis longtemps par le barreau. Il y a une justice du quotidien qui frappe les gens d'exécution provisoire sur laquelle le législateur, dont le camp de Monsieur Sarkozy, a toujours refusé de se pencher. De même que le flou juridique qui entoure le délit d'association de malfaiteurs, qui est un délit fourre-tout.
Oui,
effectivement. Donc, si vous voulez, là où je rejoins la démonstration, qui est quelque chose d'un peu cruel, si vous voulez, le délibéré a duré plus de 4 heures. Nicolas Sarkozy, je pense, il fait allusion. Il commence par être relaxé des 3 principaux chefs de prévention. Donc, il s'attend légitimement, pas forcément à une relaxe générale, mais à une décision clémente. Et donc, il y a quelque chose de presque
cruel. Ça pouvait indiquer une décision clémente?
Oui, si vous voulez. Quand vous êtes poursuivi, quand on vous reproche 4 faits fautifs et qu'on vous dit que vous n'avez commis aucune faute sur les 3 premiers, vous vous dites que quand bien même on vous reconnaîtrait fautif sur le 4e, la peine qui vous sera infligée ne sera pas forcément la plus sévère. Et là, non seulement la peine est extrêmement sévère, mais en plus, elle est assortie de l'exécution provisoire, non pas au nom de l'ordre public, mais au nom de l'exceptionnelle gravité, c'est-à-dire que futur président de la République, garant de l'indépendance, et donc, si vous voulez, il y a une notion sur laquelle on pourra revenir, si vous le souhaitez, qui est presque d'ordre public, moral et démocratique, qui est contestable juridiquement, sans aucune discussion.
Moi, j'ai l'impression d'être le petit gars avec le rocher qui le remonte toujours en haut de la colline. Parce que ça fait 5 procès auxquels j'assiste de Nicolas Sarkozy. Alors, il y en a 5 dans la salle d'audience, et puis il y en a 5 à l'extérieur de la salle d'audience. Alors, ceux dans la salle d'audience, Nicolas Sarkozy, il sort toujours condamné de la prison ferme. Et il dit tout le temps que c'est un complot. À l'extérieur de la salle d'audience, comme ce soir dans le JDD, ça se passe très bien, c'est très simple, tout est vide, les infractions n'existent pas, la fable est reconnue. C'est son expression, il l'a utilisé 100 fois dans l'audience. Il a duré 3 mois ce procès. Tout ça, il a pu s'expliquer. D'ailleurs, à la fin de l'audience, la présidente, elle lui a dit, Monsieur Sarkozy, à tous les autres, elle a dit ça, est-ce que vous avez pu vous expliquer? Ils ont tous dit oui. Ils se sont tous expliqués. Il faut essayer de comprendre pourquoi ce qu'il fait devant les journalistes, vous aujourd'hui, mais il le fait à chaque fois depuis le début des audiences et depuis le début de ses procès. pourquoi à l'intérieur d'une enceinte judiciaire, devant à chaque fois trois juges différents, hein, parce qu'à chaque fois il y a cinq procès, à chaque fois ça fait trois juges, ça fait 15 juges qui l'ont jugé et condamné à la prison ferme. Parce qu'il y a une série.
La ferme étant qu'on n'a pas débouché sur une condamnation.
Bien sûr, la ferme étant qu'on.
C'est-à-dire que vous prenez les raccourcis qui consistent à dire dès qu'il est devant la justice, il est condamné. Ça n'est pas le cas.
Mais dans les procès. L'affaire Bettencourt, il n'a pas été renvoyé en procès.
Dans les autres procès, il a été condamné, il a fait appel, donc il est encore présumé innocent.
C'est un constat, c'est pas mon opinion. Il y a une foule d'approximations dans ce qu'il dit. J'en ai compté 10 approximations dans son interview. Je vais pas toutes les reprendre, mais quand il dit une fable, quand il dit qu'il n'y a pas de pacte, au contraire, la justice démontre que l'association de malfaiteurs, ce qui s'est noué en 2005, c'était une entente et une volonté.
Mais sur quel
il n'y a pas de preuve. Mais si.
L'association de malfaiteurs est matérialisée par quel délit?
Lisez le jugement. C'est pas mon opinion.
Ce qui matérialise,
c'est les flux financiers, la preuve, d'après le jugement.
Mais qui n'ont pas été chez lui.
L'association de malfaiteurs, il ne faut pas faire semblant de mettre une
confusion. Il n'y a pas besoin que
l'association de malfaiteurs soit caractérisée que l'argent atterrisse sur le compte de Nicolas Sarkozy.
Oui.
C'est ça que dénoncent les avocats, toujours sans que le législateur s'y soit intéressé. Parce que alors, vous voyez, ce qui est fascinant, c'est que là, ça revient... Mais le politique s'étonne toujours que lui soit applicable une justice du quotidien à laquelle il contribue pour ce qui est de la norme applicable. Donc, ce qui, dans le jugement, mais encore une fois, moi je ne suis ni l'avocat de ceux qui ont rédigé ce jugement, ni l'avocat de Nicolas Sarkozy. Vous nous dites qu'est-ce qui caractérise, d'après le jugement, le délit d'association de malfaiteurs. C'est le fait que l'entourage mette en place un pacte avec
et l'intention de mettre en place.
Non.
La volonté. L'expression juridique, c'est la volonté.
Non.
Et que ça se caractérise par des mouvements financiers.
Et qu'il y ait des flux financiers viennent corroborer le fait que non seulement il y a eu des rencontres, mais l'intention de mettre en place.
Alors, il se trouve que Nicolas Sarkozy répond sur ce point en convoquant un jugement du tribunal correctionnel l'année passée dans le procès du Bodem qui prévoyait, le tribunal disait, en l'absence de toute preuve, une juridiction pénale de jugement ne saurait, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence, déduire la culpabilité d'un prévenu d'une hypothèse fut-elle vraisemblable.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui valait pour François Bayrou ne vaut pas pour Nicolas Sarkozy.
C'est tout le problème.
Alors, je vous pose la question, benoîtement.
Ce passage, je crois, ne vise pas le même délit. Bon, mais. Quoi qu'il en soit.
Il y a des flux financiers avérés, en l'occurrence, avec des sommes qui sont quantifiées.
Oui, mais ça ne vise pas le même délit.
Et le flou juridique.
Là, on ne voit pas monsieur, je ne disconviens pas de ce que vous dites. Ce que je vous dis, c'est qu'en droit, l'extraordinaire problème que pose l'association de malfaiteurs, est-ce que vous connaissez son origine juridique?
Non.
C'est dans la loi des suspects.
Je le confesse.
C'est la loi des suspects qui a mis en place ce système qui consistait, face aux ennemis de la République, de dire, on peut pas vous poursuivre comme auteur, on peut pas vous poursuivre comme co-auteur, on peut pas vous poursuivre comme complice. Mais vous avez un entourage qui est un ennemi de la République, donc vous êtes un ennemi de la République, donc vous allez tomber pour association de malfaiteurs.
C'est pratique, c'est une
loi fourre-tout. Ça fait depuis les origines, ça interroge un peu le sens de la justice, le français que vous êtes. Le politique également a été interrogé par le barreau. Quand on les interroge là-dessus, comme sur l'absence de recours contre l'exécution provisoire, quand ils sont au pouvoir, quand ils ont la majorité à l'Assemblée nationale, quand ils ont la majorité au Sénat, ça ne les intéresse pas.
Serge Faubert n'a pas encore parlé.
Voilà, vous refaites le procès, mais bon, il y a peut-être des commentaires à apporter.
Ah bah, allez-y, justement, vous avez la parole.
Sur l'association de malfaiteurs, c'est très amusant, si j'ose dire, que Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, s'émeuve de l'association de malfaiteurs. 1983, premier gouvernement de la gauche sous la Ve République. Robert Badinter, ministre de la Justice, présente un projet de loi pour supprimer l'association de malfaiteurs. Elle est supprimée. 1986, gouvernement de Jacques Chirac avec Albin Chalandon à la Justice, on remet dans le code pénal l'association de malfaiteurs. Au prétexte que justement la gauche, c'est les laxistes et que la droite, c'est l'ordre, c'est la sévérité, c'est la dureté. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a la joie d'expérimenter un délit qui a été réintroduit par la droite. Si vous permettez, quand même, je sais que la psychologie Nicolas Sarkozy dans l'interview. Personnellement, j'ai trouvé le
je
même
pas
écran.
Je n'ai pas que ça à dire. Je vous rassure, monsieur.
D'accord,
j'ai aussi une analyse politique et autre.
Moi, je vais dire ce que j'ai à dire. J'ai retrouvé le même écran de fumée que Marine Le Pen après sa condamnation. Le complot, elle est innocente, c'est des interprétations, on m'en veut, la personnalité des juges, etc., etc. Il commence à y avoir un problème là-dessus. Un vrai problème, pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se passe au sortir de cette décision ? On a d'une part un certain nombre de Français qui aujourd'hui pensent que toute la classe politique est pourrie. Ça, c'est un premier vrai problème auquel on va devoir faire face. Et on a un deuxième problème, c'est que toute une série d'électeurs de droite et d'extrême droite sont persuadés que les juges poursuivent un certain nombre de responsables politiques et se vengent ou assument un complot, mais en tout cas n'exercent pas, n'assument pas la justice.
Marine Le Pen a parlé d'un tableau de chasse.
Voilà, mais on a un vrai problème à gérer là. Premièrement, le discrédit qui s'abat sur la justice, comment on va faire ? Parce que je vous dis tout simplement, aujourd'hui, là, on est en train de construire une espèce de soubassement à un trumpisme à la française.
Mais pardon, monsieur, mais attendez, vous exonérez totalement de toute responsabilité.
Moi, je suis pas dans le procès.
Non, mais on peut, je reconnais que le problème de la remise en cause de la justice est un vrai sujet pour la cohérence et la cohésion nationale et la société. Néanmoins, on ne peut pas s'exonérer d'avoir une réflexion, d'avoir le droit de s'interroger sur la façon dont
vous
cette justice fonctionne.
Raison, mais vous pourriez
les magistrats.
Comme vous m'avez interrompu, je me permets de rebondir.
Monsieur Cahuzac
non, c'est vous, là, on ne va pas s'interrompre
juste,
toute l'émission.
Monsieur Cahuzac a été condamné à la prison ferme.
Je termine juste. L'association de malfaiteurs, pour un délinquant ordinaire devant un tribunal, dans 80% des cas, c'est l'exécution provisoire et c'est la détention.
Oui.
Parce qu'il encourt plus de 5 ans.
Ça c'est la phrase la plus fausse de son interview, parce qu'elle est factuellement fausse. L'exécution provisoire est une mesure exceptionnelle.
Elle n'est pas exceptionnelle. C'est la
justice civile.
Les justiciers l'ordinaire.
Qu'elle soit exceptionnelle ou pas, comprenez qu'elle.
Et vous faites une confusion. Mais alors, c'est pas.
Non, c'est vous qui voulez qu'elle soit exceptionnelle.
C'est pas très grave.
Non, s'il vous plaît.
Une décision de justice soit intelligible pour les citoyens.
Ce qui me désole. Ce qui me désole.
En tout cas pour le.
Laurent Valdivia, allez-y, s'il vous plaît. On va pas parler.
Le tribunal, à ce stade, un tribunal correctionnel, n'a pas. Il y a une liste, c'est l'article 144 du Code de procédure pénale, il y a 7 ou 8 points pour l'exécution provisoire en matière correctionnelle. En plus, la gravité, le trouble à l'ordre public, il est exclu. Le tribunal n'a pas du tout fait ça. Quand je vois Nicolas Sarkozy aujourd'hui égrener le risque de fuite ou tout ça, c'est pas du tout l'objet. À ce stade, c'est la fois d'après ça, à ce stade, le tribunal a estimé, et c'est son droit le plus strict, que l'exceptionnelle gravité des faits, là, il manque quand même, dans cette interview, le mot sénoussi n'est même pas prononcé, mais l'exceptionnelle gravité des faits du tribunal, c'est d'estimer que l'équipe de Nicolas Sarkozy, avalisée par lui, c'est pas moi qui le dis, c'est le jugement, avalisée par lui, s'est mis d'accord avec les Libyens pour organiser un financement qui a eu un début de commencement d'exécution.
Est-ce qu'il y a une trace d'argent quelque part dans les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy?
Non, il y a une trace d'argent de versement de Ziad Takieddine qui est allé voir avec Brice Hortefeux et Claude Guéant.
Qui a été remis le 28 janvier.
Il fallait convaincre le tribunal, pas moi.
On a bien compris.
Laissez-moi finir juste ça.
Absolument au jugement des magistrats.
Laissez-moi finir juste ça.
Vous ne vous questionnez pas en tant que journaliste. Vous ne vous questionnez pas en tant que journaliste.
Mais sur les motivations. Vous savez quoi? J'ai même écrit en tant que journaliste.
J'ai pas l'impression que vous, en couvrant
ces 38 audiences.
On va avoir du temps pour débattre, s'il vous plaît.
J'ai même écrit une fois. Je préférerais que le parquet national financier se trompe. Parce que c'est vrai qu'avec les familles des victimes de l'attentat et les discussions,
je vous raconte ce qui a eu lieu dans cette audience. Vous voulez.
Très important.
Allez-y, Laurent Valdivier.
Vous parlez des victimes de l'attentat du théâtre.
Antonin André, laissez Laurent Valdivier finir. Je vous promets, vous aurez la parole à moi.
L'organisateur de cet attentat.
Non, je finis juste avec ça.
Il est normal que des collaborateurs du ministre de l'Intérieur, qui était Nicolas Sarkozy, rencontrent un terroriste en Libye.
Vous allez m'expliquer que Nicolas Sarkozy a une part de responsabilité dans l'attentat du
théâtre. Cela dit, le tribunal a estimé que les victimes de l'attentat étaient parties civiles. Elles ont reconnu leur partie civile. C'est factuel. À ce stade, les risques de fuite, ça va se poser la prochaine fois. Nicolas Sarkozy, voilà ce qui va se passer. Il va aller en détention. Il n'y a rien qui puisse s'y opposer avec la décision du tribunal de jeudi. Le tribunal l'a motivé, cette mise en détention, par l'exceptionnelle gravité des faits qu'ils estiment établis.
Et qui vous a convaincu.
Et à la prochaine étape, mais moi, c'est pas mon avis qui compte.
Bah si,
moi, je ne fais pas, je ne fais pas, je ne fais pas un journaliste d'avis.
Vous pouvez avoir un avis critique.
Un journaliste judiciaire, il a pas d'opinion.
Vous n'avez pas d'avis critique.
Non, il est factuel. C'est ça la grande différence.
Vous permettez.
Attendez, juste, je finis avec ça. Et la prochaine étape, c'est ça la prochaine étape. La prochaine étape devant la Cour d'appel, Nicolas Sarkozy, dans un mois et demi, deux mois, Nicolas Sarkozy, qui aura été écroué, pourra faire valoir les critères de l'exécution provisoire.
Je suis pas d'accord avec votre analyse.
C'est pas mon analyse.
S'il vous plaît, dans un instant, je voudrais donner la parole à Alexandra Vaillant, qui attend depuis de longues minutes. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire générale de l'Union syndicale des magistrats. Justement, on parlait de la remise en cause de la justice. On sait que vous êtes inquiet, vous alertez, car la présidente qui a prononcé la condamnation a reçu des menaces de mort. Qu'est-ce que vous vous dites, que c'était prévisible finalement ?
Bonsoir. Oui, malheureusement, depuis plusieurs décennies, les responsables publics de tous bords politiques ont des mots extrêmement forts, attaquent très fermement la justice et indirectement, on en arrive à mettre une cible dans le dos de certains magistrats. On le constate avec une augmentation depuis quelques années. On l'a vu il y a quelques mois après le prononcé du délibéré dans l'affaire de Madame Le Pen et on l'a vu à nouveau pour le délibéré concernant Monsieur Sarkozy. Donc oui, nous sommes inquiets. Oui, nous l'avons dit à plusieurs reprises. Les attaques contre l'institution judiciaire qui ne fait que faire son travail ne sont pas acceptables en démocratie. Le tribunal dans le dossier qui vous occupe ce soir a rendu un jugement en fait et en droit conformément à la loi, hein. Que les personnes impliquées dans ce jugement ne soient pas d'accord avec ce jugement par droit le plus strict, il n'y a évidemment aucune difficulté, hein. Mais le désaccord des justiciables se règle après par voie de recours, en l'espèce l'appel. Et ce qui est inquiétant pour notre démocratie, c'est de voir cette libération de la parole, notamment sur les réseaux sociaux, hein, attaquer le tribunal, alors notamment sa présidente, puisqu'on a tendance à faire un raccourci extrêmement préjudiciable, disant que le jugement de M. Sarkozy, c'est une femme, la présidente. Ce n'est pas ça du tout. C'est un jugement rendu en collégialité par un tribunal composé de 3 juges. Ça, nous le répétons depuis jeudi, et c'est important de marteler ce fait. Néanmoins, sur les réseaux sociaux, c'est elle, la présidente, qui est attaquée. On a constaté que des photos avaient circulé, que certains exigent son adresse, son nom, et certains messages sont effectivement menaçants. Nous, à l'USM, nous les avons communiqués aux autorités compétentes et depuis, des enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Paris.
Oui. Maître Carbon de 16, est-ce que c'est inquiétant ? Est-ce que lors des prochains procès de personnalités politiques, les juges pourraient avoir peur de prononcer des peines d'emprisonnement ou d'inéligibilité compte tenu de ces menaces ?
Écoutez, d'abord, les avocats sont solidaires des magistrats, et spécialement des magistrats menacés. La deuxième chose, c'est que, hélas, les menaces qui pèsent sur les magistrats ne sont pas nouvelles, hein. C'est même pour ça qu'on a modifié la composition des cours d'assises spéciales, qui ne sont composées que de magistrats, parce que il y avait des pressions insupportables, et puis il y a des juges qui ont payé de leur vie les menaces qui pesaient sur eux. La chose sur laquelle il convient de revenir, c'est qu'évidemment, le jugement est discutable et sera discuté en appel. Mais je pense qu'il faut bien faire attention dans la déclaration précédente. Les menaces qui pèsent n'ont pas été téléguidées par Monsieur Sarkozy.
Ah, ce n'est pas ce qu'on a dit.
Non, mais oui, il y a quelque chose quand même sur le fait de dire la parole des politiques qui critiquent sans cesse la justice. Or, la déclaration à la sortie du tribunal de Nicolas Sarkozy était
il n'y a pas que Nicolas Sarkozy qui a pris la parole.
Mais donc, si vous voulez, il ne faut pas dire que ce sont les gens qui critiquent les décisions de justice qui les frappent, qui sont à l'origine de, ne serait-ce que même inconsciemment ou indirectement, des menaces qui ont été proférées. Les menaces qui ont été proférées, fort heureusement, il y a un procureur de la République qui les prend en main, il y aura des enquêteurs qui interviendront, et cette magistrate, fort heureusement, sera protégée, et peut-être ses deux assesseurs également. Maintenant, si vous voulez dire que les magistrats, plus tard, craindront, dans leur délibéré, de prononcer des peines violentes, vous savez, en matière de narcotrafic, en matière de terrorisme, où les menaces sont beaucoup plus réelles que quand les décisions touchent l'univers politique, les mains des magistrats ne tremblent pas.
Oui, Laurent Saillet.
On peut tout à fait... il faut condamner, et c'est inadmissible, j'espère que ces personnes seront retrouvées. Évidemment, ils sont menacés, comme nous, beaucoup d'entre nous aussi, peut-être pas avec les mêmes protections. Ce que je veux dire par là, c'est pas pour autant qu'on va se bâillonner. Parce que j'entends la petite musique de dire « Ah là là, arrêtez de critiquer cette décision, parce que vous comprenez, à cause de vous, c'est ce que vous dites un peu, on va menacer les magistrats ». Non, il y a deux choses très différentes. On a le droit de critiquer cette décision que l'on trouve totalement, enfin,
ça ne fragilise pas l'institution judiciaire.
Mais non, mais l'institution judiciaire, je vais vous dire, elle se fragilise elle-même parfois par ses décisions, parce que on dit tous les jours, l'exception c'est la prison. À chaque fois que on a des OQTF qui sont récidivistes, on nous dit qu'est-ce qu'il faisait dans la nature, ou alors on libère les gens avant, mais qu'est-ce qu'il faisait dans la nature alors qu'il est dangereux, mais vous comprenez, l'exception c'est la prison. Aujourd'hui, moi je suis pas juriste, mais en tant que citoyenne, je me dis, on a dans nos rues des gens dangereux qui ne sont pas en prison. Oui, c'est un raisonnement basique, mais que beaucoup de gens font, et ça il faut pas le négliger. Et on a un ancien président de la République qui rien ne nécessitait le fait qu'il aille en prison, je le redis, vous pouvez habiller les choses comme vous voulez, il n'allait pas partir, il n'allait pas récidiver, il pouvait tout à fait faire son appel en étant en liberté, et lui, on le met en prison. C'est l'institution judiciaire qui se met elle-même en cause. Quand ils prennent des positions politiques, pendant la présidentielle, qu'ils appellent à voter ou à ne pas voter pour tel candidat, quand certains magistrats, certains syndicats de magistrats vont mettre des stands à la fête de l'humanité, est-ce que c'est normal? Moi, j'ai envie qu'un juge, s'il a des convictions personnelles, évidemment, c'est un citoyen, il va voter. Mais j'ai pas envie qu'un juge soit politisé. Parce
donc
que ça veut dire
quoi? Interdire les syndicats.
Les syndicats, c'est
pour...
Excusez-moi, les syndicats, j'ai jamais dit qu'il fallait interdire les syndicats, mais est-ce que les syndicats doivent aller faire de la politique?
Ils font du syndicalisme, hein?
Non, ils doivent protéger. Non, mais ils doivent protéger. Non, un syndicat, ça protège les personnes qu'ils sont censés représenter. Parce que qu'est-ce que vous vous dites? Un syndicat qui, comme ça, appelle à voter ou...
Mais désolé,
je trouve
Alliance
ça troublant.
Moi, je défile devant l'Assemblée nationale en disant que le problème de la police, c'est la justice. Est-ce qu'ils font de la politique ou pas?
Est-ce que Alliance, il va vous juger, monsieur? Est-ce que c'est lui qui va vous condamner?
Non, mais c'est Alliance qui va m'arrêter peut-être dans la rue.
Antonin André,
ce qui est frappant dans l'interview qu'on fait de Nicolas Sarkozy, c'est que lui refuse de rentrer justement dans ce combat. Il refuse de dire que les juges mènent un combat politique, parce que ce faisant, s'il avait cette affirmation, il considérerait lui-même qu'il alimente d'une certaine façon une forme de politisation.
Il procède par insinuation, en disant que la magistrate aurait peut-être pu l'état de droit.
Pardon, monsieur Valdiguier, mais je trouve qu'il est quand même extrêmement mesuré à l'endroit des juges. Moi, je m'attendais, je suis un peu naïf, je m'attendais, lorsque j'interviewe Nicolas Sarkozy qui vient de prendre une peine dont une partie de l'opinion publique, pas vous, qui trouvez que tout ça est très cohérent.
J'ai pas dit ça. Je ne suis pas un journaliste militant. C'est ça que je vous expliquais. Donc, je n'ai pas de mon opinion n'importe quoi.
Objectivement, une partie de l'opinion publique, des éditorialistes, y compris de gauche, disent il y a quelque chose qui n'est pas rationnel dans cette décision et qui ne nous convainc pas. Je m'attendais à ce que le principal intéressé sorte la sulfateuse pour désinguer les juges. Il ne le fait pas.
Il ne refait pas le procès dans l'interview, d'ailleurs.
Je trouve qu'il est dans une retenue que je trouve assez remarquable et il refuse de rentrer dans ce débat. Il dit son sujet, c'est pas de savoir si les juges sont politisés, c'est la mise en œuvre des règles de justice et l'état de droit. Donc, c'est-à-dire, il ne s'agit pas de mettre en cause une corporation, il s'agit de s'interroger sur la façon dont cette justice fonctionne ou dysfonctionne.
Oui, mais
je trouve que c'est une discussion qu'on peut avoir de façon légitime.
Tout à fait. Malheureusement.
Plus légitime quand il s'agit de Nicolas Sarkozy.
Oui. Mais pas seulement Nicolas Sarkozy.
Mais si.
Pas seulement Nicolas Sarkozy.
Mais je vais vous dire pourquoi. C'est que, en réalité, le soupçon qui plane depuis le début sur les rapports qu'entretiennent les magistrats avec Nicolas Sarkozy, c'est de savoir s'ils sont animés par une rancœur ou non. pas seulement pour les petits pois, mais parce que Nicolas Sarkozy avait envisagé de supprimer le juge
pas
d'instruction.
Pas de supprimer et le juge d'instruction, savoir... Monsieur Carbontez, de réformer le statut, d'en faire un juge de l'instruction et non pas un juge d'instruction.
Voilà.
Donc c'est le cas partout en Europe.
On fera un TD si vous voulez, on passait de la procédure inquisitoire à une autre procédure, et donc le juge d'instruction était de facto supprimé.
Modifié dans ses attributions.
Si vous voulez, très bien. Mais vous savez qu'une modification en droit, ça correspond à une suppression.
C'est le droit européen,
c'est tout le problème de la novation.
On séparait les deux.
Bon, écoutez, ce que je veux vous dire, c'est que les magistrats, donc qui sont moins bons juristes que vous, ont compris pas qu'ils allaient attention. Supprimer et en est né un soupçon que les magistrats auraient un jour la peau de Nicolas Sarkozy et que par conséquent, toute décision entrant en voie de condamnation à l'égard de Nicolas Sarkozy ne serait mue que par cette rancœur.
Lui ne l'affirme pas.
Donc, le débat...
Si, non, lui, il parle davantage de l'affaire. Il vise pas les magistrats.
Par contre, non. Le fait que les magistrats aient déployé des moyens qui vont au-delà de l'individualisation de la peine à son encontre a animé chez lui un soupçon. Maintenant, je vais vous dire, quand on va au bout de cette histoire et que, en réalité, on se focalise uniquement sur l'exécution provisoire de la peine de prison, en réalité, je suis pas sûr que ça serve les intérêts de la défense. Pourquoi ? Parce que ça donne l'impression d'un écran de fumée qui voudrait qu'on évite de parler du fond du dossier. Et éviter de parler du fond du dossier, c'est quelque part un peu comme ses amis qui réclamaient sa grâce, orienter l'opinion publique ou les analystes vers l'option de la culpabilité, sur laquelle je me garderai bien de me prononcer, puisque vous êtes en train de me placer dans le camp des gens qui sont convaincus que Nicolas Sarkozy...
Moi, je revendique le droit à s'interroger.
J'avais une question, s'il vous plaît, Antonin André. Nicolas Sarkozy évoque très peu son incarcération dans cette interview. Il dit simplement, je ne redoute rien, justement, sur cette incarcération. C'est la vie, on ne peut pas être heureux dans les hauts et refuser les bas. Ça ne lui fait pas peur ?
Nicolas Sarkozy est un homme politique qui renvoie l'image de quelqu'un qui n'a peur de rien. Donc c'est quelqu'un qui affronte l'adversité et qui se nourrit de l'adversité. Les juges le mettent en prison, ils ne s'attendaient pas à cette décision. À quoi vous attendez-vous quand vous connaissez Nicolas Sarkozy ? À ce qu'il s'effondre et à ce qu'il supplie ? Pas du tout. Au contraire, jamais Nicolas Sarkozy n'offrira, ne montrera le moindre signe de faiblesse au juge qui incarcère, même s'il considère que c'est une décision inique. En revanche, le seul moment où il parle d'être affecté par ces décisions, c'est d'être affecté pour ses proches. Ils sont autour de lui. Et c'est vrai que quand vous êtes le fils ou la fille de Nicolas Sarkozy, la fille de Nicolas Sarkozy, qui n'est pas allée à l'école ces deux derniers jours, et on le comprend aisément, et qu'évidemment, cette épreuve-là pour ses proches, pour lui, est assez douloureuse. Mais, encore une fois, j'ai la faiblesse de penser que même cette souffrance-là, cette peine qu'il a, nourrit sa détermination. Je ne sais pas comment cette histoire finira. Ce que je sais, c'est que si in fine, Nicolas Sarkozy est innocenté, je ne sais pas ce qu'il arrivera, mais si cela advient, nous aurons à nouveau cette discussion sur le fonctionnement de la justice et sur le fait de savoir comment cette enquête a été menée, et je serais ravi d'entendre les arguments de M. Valdiguier pour m'expliquer que tout ça est très cohérent et tout à fait normal.
Mais j'ai pas dit que c'était cohérent ou tout à fait normal.
Serge Faubert, vous vouliez réagir.
Juste une remarque sur l'incarcération de Nicolas Sarkozy. Il n'est pas certain qu'il passe plus de quelques semaines en prison, tout simplement parce qu'il est âgé de 70 ans.
Ce serait déjà beaucoup.
À votre grand regret, visiblement.
Il a jamais.
Okay, c'est quoi
Je sais pas. Vous avez l'air de
mais si vous faites dans
laissez finir, Serge Faubert. Allez-y.
Franchement,
vous avez la parole. Si jamais il passe par la case prison, ce sera pour seulement quelques semaines, vous disiez.
Oui, parce que il a 70 ans et il est donc en droit de demander tout de suite une libération conditionnelle qui pourra prendre une forme diverse. Ça peut être de lui dire bon, ben, vous sortez dans la journée et puis vous pointez au commissariat, vous revenez.
Non, ça, c'est Monsieur Faubert, je vous interromps parce que c'est faux ce que vous dites.
C'est faux.
La libération conditionnelle, il faut que la peine soit définitive. Là, il est pas du tout dans ce cas de figure. Là, il va effectivement passer. C'est le plus vraisemblable. C'est
elle
un délai de 60 jours. À partir du moment où il va rentrer en prison, il a comme tout le monde. Ça, c'est comme tout le monde. Ça n'a rien à voir avec Nicolas Sarkozy. Comme tout le monde, ses avocats avocats vont faire une demande de mise en liberté. La cour d'appel a 60 jours pour statuer. Alors, dans ce délai de 60 jours, en général, à Paris, c'est un mois et demi. Si c'est vous et moi, ça sera un mois et demi. Dans ce mois et demi, là, il va dire les fameux critères. Là, il va dire, est-ce que j'ai un risque de fuite? Là, il va dire, est-ce qu'il y a un risque de concertation avec les témoins? Là, c'est vrai que quand on regarde les critères objectivement, qui vont jouer à ce moment-là seulement, les critères, il n'y a même pas le trouble à l'ordre public, parce que le trouble à l'ordre public, il est exclu en correctionnel. Donc là, le plus vraisemblable, c'est que la cour d'appel estime que l'exécution provisoire le concernant ne tient plus. En revanche, si un jour il est condamné,
non mais je on ça pour le ça coup, contre l'exécution provisoire, et puis deux mois après on vous dit non,
là, c'est,
les conditions sont pas
là,
c'est lunaire,
ben, non, mais c'est pas réalité, lunaire, c'est le droit.
Non, mais et là, non, mais laissez-moi juste terminer,
c'est le droit. Apprenez-le surtout, apprenez-le pour essayer de l'expliquer, expliquez-le aux gens, et si c'est aberrant, il faut que ça change. Et alors, si un jour il était condamné, si un jour il devait être condamné, à ce moment-là, comme tout le monde, à partir de 70 ans, si vous rentrez en prison condamné, vous pouvez, si vous êtes condamné, c'est-à-dire si c'est définitif, vous pouvez demander la libération conditionnelle immédiatement. Normalement, si vous n'avez pas 70 ans, vous ne pouvez pas demander la libération conditionnelle avant la mi-peine.
Voilà, c'est ça.
Donc c'est vrai que tout ça, ça dénote. Alors, on n'est pas obligé d'être spécialiste de tout, mais il y a une telle inculture de tout ça que les choses qui sont du quotidien. Ouais. Alors oui, il faut changer.
Vous considérez pas que la décision de justice doit être intelligible par tous les citoyens? Est-ce que c'est pas un sujet, ça?
Oui. Alors la décision de justice, il y a deux mots avec lesquels vous avez du mal, c'est exceptionnelle gravité. Ça, effectivement, vous avez du mal avec ça parce que vous considérez que Nicolas Sarkozy n'a rien fait. Mais les magistrats du tribunal correctionnel, après 38 journées d'audience, et 12 années d'enquête.
Ah oui. Et 12 années. Preuve d'une célérité et d'une débauche de moyens.
Après, bien sûr, c'est factuel. 12 années d'enquête. Factuel. Qui n'a d'ailleurs pas démarré par le document Mediapart, hein. Ça avait démarré avant dans le bureau du juge Van Runbeek. Là, ça encore, ça fait partie des inexactitudes de l'interview de Nicolas Sarkozy. Ça n'a pas démarré par le document Mediapart. Voilà. Donc, après toute cette enquête, les trois magistrats ont estimé que compte tenu de l'exceptionnelle gravité et de l'effectivité de la peine, ça nécessitait un mandat de dépôt. C'est ce qu'ils ont décidé.
Ah, voilà.
Oui. Mais
voilà.
C'est cette décision.
Comme vous dites, c'est ce qu'ils ont décidé.
Mais c'est bien.
Ils l'ont décidé. Oui. Que vous le vouliez ou non, au nom du peuple français, c'est-à-dire au nom de tous.
C'est ça qui va pas. Le peuple français n'a pas l'air de se reconnaître dans cette décision.
S'il vous plaît, vous allez encore pouvoir prendre la parole. Allez-y, Laurent Saillé.
On peut décortiquer en long, en large, à travers tout ça. La réalité, c'est qu'on va voir l'image d'un ancien président de la République qui est incarcéré. Et cet impact est un impact pas seulement sur lui-même, sa vie et sa famille.
C'est ce que j'ai écrit un jour, madame, j'ai dit pour nous tous, ça serait mieux que ça soit
pour vous. Laissez finir, Laurent Saillé,
s'il vous plaît.
Vous allez arrêter de vous couper la parole, enfin.
Moi, j'essaie juste d'en placer une, mais je suis la seule femme en plus. Laissez-moi un tout petit espace, s'il vous plaît.
Laurent Saillé, allez-y.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut mesurer quand même la gravité de la situation de manière globale. On est en France dans une situation où la France est quand même très affaiblie au niveau international, pardon de le dire. Donc, se permettre comme ça de mettre ce mandat de dépôt, si vous voulez, qui n'est justifié par rien. Vous l'expliquez, mais il n'est pas justifié. Voilà. Mais l'exceptionnel en est considéré par les juges.
Mais oui, c'est eux qui décident.
Ça donne une image de notre pays qui est terrible. Et c'est vrai qu'on peut se demander, si vous voulez, quand il a parlé de haine à la sortie du procès, ça a été quand même assez instinctif. C'est ce que ressentent beaucoup de gens, et beaucoup de gens qui ne sont pas des fans de Nicolas Sarkozy. Et c'est là le trouble à l'ordre public. Parce que cette décision cause aujourd'hui un trouble à l'ordre public parce qu'elle amène les citoyens à douter de leur justice. C'est ce qui est la pire chose. Et c'est ce qu'on veut absolument éviter. Mm-hmm. Quand on doute de sa justice, c'est quand même quelque chose d'assez déstabilisant.
Vous le disiez, c'est tout à fait inédit, un président de la République en prison. On va justement parler de ses conditions d'incarcération. Le plus vraisemblable, c'est ce que vous me confirmiez, Laurent Valdiguier, c'est qu'il aille à la prison de la Santé à Paris. Pour en parler, je voudrais qu'on accueille sur ce plateau Thierry-Paul Valette. Bonsoir, je vous invite à nous rejoindre sur ce plateau. Merci de nous avoir rejoints. Alors, pour vous présenter, vous avez été incarcéré pendant 4 mois à la prison de la Santé pour abandon de famille en l'absence du paiement d'une pension alimentaire.
Exactement.
Vous avez passé 4 mois dans cette prison, c'était en 2019. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué ?
condamné à 2 ans pour un non-paiement d'une pension alimentaire. Donc, j'ai trouvé la sanction très dure. La prison, on n'y est jamais habitué. On peut pas s'y préparer. C'est le choc carcéral. Et finalement, c'est un monde qui s'écroule. Et ce qui attend M. Sarkozy, qui semble ne pas vouloir mettre un genou à terre, je peux l'entendre, il faut savoir que la prison, quand même, elle est capable de briser sans faire plier les gens.
C'est elle extrêmement vous a brisé, violent. Elle vous a brisé, vous, la prison?
Oui, 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 c'est très violent. Vous savez, moi j'avais l'habitude, à l'époque des Gilets jaunes, des élections européennes, de venir sur les plateaux, de venir chez vous, d'être dans cette forme de lumière, et on passe de l'ombre... de la lumière à l'ombre, on passe de finalement d'un statut à être finalement qu'un numéro d'écrou. Et Monsieur Sarkozy, là, j'ai envie de dire que quand même c'est la prison de la santé, le club VIP, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le quartier d'isolement, le quartier des vulnérables, sauf que le fait d'être seul, c'est finalement le seul luxe, et parfois, ça peut être la pire des choses. On est confronté au bruit, du bruit incessant, cette violence, matin, midi et soir.
Quel bruit?
Le bruit, quoi, les cris en permanence, les hurlements, les cris sur les portes. Et chapeau, je félicite le personnel de la prison de la santé qui font un travail qui est quand même formidable, qui est dur. La détention, c'est dur pour tout le monde. C'est dur pour les détenus et c'est dur pour le personnel de la prison. Et c'est pas pour rien qu'il y a un taux de récidive qui est énorme. C'est pas pour rien que la prison aussi, ça radicalise. Voilà. Mais après, il faut quand même casser un petit peu ces idées que non, la prison, c'est le Club Med, c'est génial. Vous voyez, moi, j'ai ramené, j'ai fait un petit peu le tour de mes dossiers. J'ai gardé des souvenirs parce que ça marque. C'est le petit manuel pour cantiner. Voilà. Donc, Monsieur Sarkozy, c'est pareil. On va lui amener de la nourriture. Si on lui
Qu'est-ce que c'est précisément?
C'est pour cantiner, pour pouvoir cantiner. Par exemple, quand on sert une omelette aux détenus, c'est de la poudre mélangée avec de l'eau. Bon, c'est pas fameux. La viande, c'est souvent congelée, c'est aussi souvent de la poudre. Et donc, on a pour améliorer le petit corps.
Il sera traité de la même façon, Nicolas Sarkozy?
Ah, mais bien évidemment, il va pas avoir un cuisinier exprès pour lui, pas du tout.
Il s'agit d'un ancien président. Donc
mais quand bien même c'est un ancien président, c'est un détenu comme tout le monde. Voilà, Monsieur Bernard Tapie, quand il était en prison, il a bien expliqué qu'il pleurait, et malgré le fait qu'il se soit entraîné à être enfermé dans une pièce de 10 mètres carrés. Bon, l'isolement, l'enfermement, 22 heures sur 24 dans 10 mètres carrés. Bon, Pierre Botton l'expliquait lui aussi. Alors, la prison de la santé, quand bien même elle a été refaite un petit peu avant 2019, elle est vétuste. Elle a quand même eu un taux de surpopulation carcérale qui est monté à près de 165%. C'était en 2023. Donc ça veut dire que finalement les conditions de détention, elles se dégradent au niveau des bâtiments et au niveau du personnel qui malheureusement ne peut pas assumer que ce soit la sécurité ou la condition de vie des prisonniers.
Laurent Valdiguier, pardon, je voudrais juste réagir.
Laurent
Valdiguier, vous me disiez qu'il faut qu'il se prépare, Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, on me dit qu'il est en ce moment au Parc des Princes. Il assiste à un match de foot entre le Paris Saint-Germain et Auxerre. Ça va être un immense choc d'entrer dans cette prison.
C'est les anciens détenus disent que le premier choc, le premier autobus qu'on prend en prison, peut-être vous allez me contredire, mais c'est la première nuit. Parce que la première nuit, c'est la prison, ça vit beaucoup la nuit, ça crie beaucoup la nuit. D'ailleurs, quand on passe boulevard Arago à côté de la prison de la santé, on entend les gens crier. Donc oui, Nicolas Sarkozy ne bénéficiera pas de régime de faveur particulier. Le fameux quartier QB4 des détenus vulnérables, l'ancien quartier VIP, il était aménagé. Il y a 18 cellules qui étaient des cellules seules jusqu'à il y a pas très longtemps. Maintenant, il y a des lits à étage partout. Et il y a même des cellules du quartier vulnérable où il y a un matelas par terre, donc ils sont 3. On bat de mois en mois des records d'incarcération. On a plus de 80 000 détenus en France. Donc c'est vrai que les prisons sont archi pleines.
Pourquoi est-ce que vous dites que la première nuit, c'est ce qu'il y a de pire?
Ben parce que la première nuit, on n'est pas préparé au choc des cris. Alors en plus, imaginez Nicolas Sarkozy en détention, ça va se répandre dans la détention comme une traînée de poudre, et les détenus certainement crieront son nom. Donc c'est vrai que c'est le premier choc, c'est la nuit. Alors lui en prison, vous allez là aussi
réagir. Il faut avoir des objectifs. Et là, lui, s'il est incarcéré, c'est ce que me disait un ancien détenu hier, s'il est incarcéré autour de mi-novembre, au début novembre, son objectif, compte tenu de ce dont on a parlé tout à l'heure, de la demande de mise en liberté qu'il va faire le jour même, son objectif, ça va être de sortir avant les fêtes. Parce que c'est vrai qu'en prison, c'est très dur les fêtes. C'est très dur les vacances, c'est très dur l'été, c'est très dur les jours fériés, les samedis fériés s'il n'y a pas de parloir. Parce que là, vous vivez aussi au rythme des parloirs, il y a 3 parloirs par semaine. Ça veut dire votre famille, vos enfants, votre femme, vos fils, vous êtes en prison, mais vous amenez tout le monde en prison, puisque tout le monde va défiler au parloir pour venir le voir, prendre un tour, imaginez. À la prison de la santé, c'est quand même assez visible. Et si il est libéré avant Noël, il n'aura pas ce deuxième autobus que sont toujours, je parle sous votre contrôle.
Non, bien évidemment.
Mais Antonin André, d'ailleurs, c'est ce que vous nous disiez, c'est aussi ce qui le marque particulièrement, sont les proches. Laurent Valdiguier le disait, on risque fortement de voir ses proches se rendre au parloir pour lui rendre
c'est
visite.
C'est une épreuve pour tout son entourage et depuis le début. Et ils étaient d'ailleurs là au moment du délibéré. Et on sent aussi, quand on discute avec lui, ses fils sont adultes, majeurs. Pour certains, d'ailleurs, font de la politique, donc éprouvent aussi la violence de la vie publique. Je pense, je trouve que Carla Bruni a aussi une espèce de distance et d'ironie qui la protège et que je trouve assez exemplaire. Je pense que c'est très compliqué pour sa fille, qui a 13 ans, et qui d'ailleurs a été très marquée par ce jugement. Et ouais, y a eu un moment, je crois, assez douloureux pour lui d'expliquer à sa fille qu'il ne fallait pas qu'elle s'inquiète et qu'il surmonterait tout ça.
Il vous l'a raconté ?
Oui, il nous en a un peu parlé.
C'est ça qui le touche particulièrement ?
C'est ça, c'est la seule chose qui le touche, Nicolas Sarkozy.
C'est plutôt les conséquences sur sa famille.
C'est quand sa famille souffre autour de lui, ou ses proches souffrent autour de lui. Pour le reste, évidemment, tout ce que vous décrivez, il aura à le subir. Et je pense que tant qu'on ne l'a pas éprouvé comme vous, Monsieur Valette, c'est compliqué de savoir comment on va réagir. Néanmoins, on sent chez lui, je vous dis, là, une force et une détermination qui est quand même un peu hors du commun. Nicolas Sarkozy n'est pas tout à fait, j'ai côtoyé beaucoup d'animaux politiques, des présidents. Nicolas Sarkozy n'est pas tout à fait du même bois et de la même trempe que les autres politiques que j'ai côtoyés.
Vous savez, Bernard Tapie, on le connaît tous, Tapie. Oui. Là, il racontait toujours que son premier séjour en prison à la santé, ça a été terrible.
Oui.
Non, mais dans la prison de Luynes à Marseille et tout ça, il avait mieux géré. À la prison de la santé, c'est terrible. Vous avez raison, Nicolas Sarkozy, il dit toujours qu'il plaira pas, qu'il baissera pas la tête, qu'il fera face. Et quand on le voit, on est toujours emporté par sa force. Il a fait une première garde à vue, il est sorti de là. Il a fait une première mise en examen, il est sorti de là. Il a fait des premiers tribunaux, il est sorti de là toujours. La prison, ça emporte la famille.
Parce que la
prison, ça veut dire que vous n'avez plus le même rythme. Vous n'êtes plus tout seul en prison. Vous êtes tout seul en prison, mais toute votre famille vit à ce rythme. Aux appels, à
toute
la présence.
L'humiliation aussi. Les parloirs, c'est vraiment humiliant, c'est dégradant parce qu'on entraîne sa famille également. Et puis, le fait d'être un ancien détenu, de passer par casse-prison, c'est comme si on était marqué au fer rouge. Puis, Monsieur Sarkozy, il passera également par la partie des fouilles. Il passera aussi par les hurlements. Bernard Tapie, quand il est rentré à la prison de la santé, il avait été acclamé.
C'est particulièrement humiliant, cette partie des fouilles.
Ah mais c'est très mignon, tout est humiliant. À partir du moment où on rentre en détention, il y a les grandes portes qui se ferment, on est pris en photo, il y a les empreintes digitales, on nous amène un pactage, on nous amène dans notre cellule. Voilà. Et on vous dit, c'est là que vous allez, pendant plusieurs mois, passer du temps. Alors oui, l'objectif de Nicolas Sarkozy, c'est d'essayer de sortir avant les fêtes. Parce que Noël en prison, c'est quand même assez terrible. Mais ça apporte quelque part un petit peu de joie. C'est assez paradoxal. Mais en revanche, son combat qui va être important, c'est de pouvoir aller en appel en étant en dehors de la détention. Ah oui, c'est-à-dire sans les menottes. Ça va être un objectif principal pour lui. Ça, c'est quelque chose qui va se... Voilà.
Oui, parce que c'est une toute petite conséquence. Mais si dans une affaire, il y a des détenus, la cour d'appel est obligée de prendre le dossier plus vite. Là, en l'occurrence, il y en a deux autres détenus. Oui. On parle de Nicolas Sarkozy, mais Alexandre Joury et Wahib Nasser, ils sont détenus depuis deux jours. Donc, c'est vrai que ça va obliger la cour d'appel, la prochaine étape, il y a pas des risques de fuite, etc. Donc, s'il reste en prison, ça veut dire qu'il y a un procès en appel plus vite. Et pour Nicolas Sarkozy, un procès en appel détenu,
c'est terrible.
Parce que là, ça veut dire que vous êtes réveillé le matin de chaque audience, vous êtes dans un box des détenus, c'est la souricière.
Vous parliez de...
Il y a d'ailleurs quelque chose d'intéressant, c'est que toutes les réformes pénitentiaires, sur toutes ces humiliations, oui, toutes les conditions de comparution consécutives aux humiliations, notamment la privation de sommeil quand on vient, oui, d'une maison d'arrêt qui est loin, la privation des repas quand on rentre trop tard, etc.
La souricière, bon, à Paris.
Toutes les réformes pénitentiaires en France ne sont intervenues qu'après l'incarcération des politiques. C'est-à-dire, ça revient à la considération précédente.
Enfin, je conseille le ligne rouge de BFM.
C'est-à-dire que non seulement, on ne fait pas attention à la justice ordinaire, qu'il s'agisse de l'exécution provisoire, qu'il s'agisse de l'association de malfaiteurs, on ne fait pas attention à l'impact qu'a sur la psyché du détenu sa future comparution par rapport à une comparution libre. J'en voudrais revenir deux secondes sur l'humiliation, qui est dans la droite ligne. L'humiliation, c'est bien sûr la fouille et tout le parcours qui est imposé au détenu quand il arrive en détention, mais c'est aussi son entourage familial qui subit les mêmes choses. Bien sûr. C'est-à-dire l'attente dans la rue, le passage un par un, et qui sera doublé pour la malheureuse famille du président Sarkozy, par le fait que vous aurez des confrères ou des consoeurs indélicats qui publieront des photos. Et que lui, dans sa cellule, verra les photos de sa famille humiliée, en train de faire la queue dans la rue perpendiculaire à la rue de la Santé pour accéder au parloir famille, parce que il y aura quelqu'un qui prendra un ticket en prenant une photo à l'intérieur de la détention
Il est pas imaginable qu'il y ait des aménagements, c'est-à-dire par exemple, on considère les proches préviennent qui viennent le voir et que la voiture des proches.
Mais même les aménagements. Mais moi, je suis d'accord avec vous.
Oui, il y aura quelques petits entraînements.
On en a vu des aménagements là. Tout le monde n'est pas rentré par l'entrée du public pour le procès et pour le délibérer. J'ai envie de vous dire tant mieux pour eux. Mais là, les aménagements, ils se retourneront aussi contre eux, en disant qu'il y a une justice et une exécution de la peine d'exception.
Oui, mais enfin, pardon de vous dire quand même
que... Si vous voulez, tout est piège pour
depuis
lui.
Depuis quelques jours,
tout
on est en train de nous expliquer qu'effectivement, moi j'arrive pas à l'imaginer en prison, et d'en parler, si vous voulez, ça me bouleverse. Mais je disais tout à l'heure que vous avez fait un documentaire Ligne Rouge qui est passé juste avant votre émission.
Oui.
Donc on va pas non plus s'apitoyer sur tous les gens qui sont en prison parce
et
que quand on
pas,
voit
madame, pourquoi pas
si vous me permettez d'aller au bout à chaque fois, c'est
si
quand même
si on se rend compte de l'inhumanité. Si on se rend compte de l'inhumanité de la détention, pourquoi on ne s'y intéresse pas?
Mais justement, on va la laisser finir.
Si vous me permettez de finir, je vais pouvoir vous le dire. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne voudrais pas que ce procès soit l'occasion, si vous voulez, de mettre tout le monde dans le même sac. Pardon de vous dire que je ne fais aucune comparaison entre Nicolas Sarkozy et des gens qui ont tué, violé, frappé des gens. C'est bien ça la différence. Donc moi, je ne vais pas avoir de peine particulière pour ce qui se passe parfois en prison. Et je vous recommande le documentaire où on voit tout à l'heure qu'on vend de la drogue, qu'il y a un énorme trafic. Donc
Madame,
tout le
je
monde
suis avocat,
pas...
c'est gentil de
c'est
m'informer.
Pour ça. Non mais je ne parle pas à vous, monsieur, je parle aux téléspectateurs qui nous regardent. Hein. Excusez-moi, on n'est pas dans un café en train de prendre un verre. Hein. Excusez-moi, vous voyez
ouais. Voilà, allez, je vous excuse, voilà. Mais n'y revenez pas.
D'accord. Je vous...
Pas de réitération.
La prochaine fois, je vous demanderai l'autorisation, monsieur.
Oui.
Papa.
Laurent, ça y est.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faudrait pas que cette histoire en soit pour... et nous expliquer que maintenant la justice est terrible avec tout le monde. Là où moi je prouve que justement la décision concernant Nicolas Sarkozy est injuste et infondée sur ce mandat de dépôt, oui, c'est que je ne vois pas le lien entre un homme et ce dont il est accusé
et on ne faisait
tous
pas
ces
lien.
Gens qui sont...
L'idée c'était de s'interroger sur les conditions de détention
de
Nicolas
tous les
Sarkozy.
C'est-à-dire que vous méprisez la justice ordinaire et la loi ordinaire. Et quand elle se retourne contre vous,
monsieur,
en matière d'association de malfaiteurs, en matière d'exécution provisoire, vous êtes surpris.
Ça
c'est
vraiment...
l'erreur de tous les politiques.
C'est
le boomerang qui est en train de rattraper un certain nombre d'entre
Thierry
eux.
Je vais vous dire quelque chose.
Vous nous disiez justement tout à l'heure, vous n'arrivez pas à imaginer Nicolas Sarkozy dans cette prison-là où vous êtes passé.
Moi, personnellement, je sais par où il va passer, je sais... ce qui va lui arriver par la tête, il y a des grandes chances, Monsieur Sarkozy n'est
pas non plus
un surhomme, mais il va passer par des moments de doute, par des moments de solitude, il va passer par des moments de craquage, il va être surveillé pour pas qu'il puisse non plus mettre fin à ses jours, parce que personne ne sait comment il peut réagir, il n'y a pas de surhomme, ça n'existe pas dans un environnement aussi dur et aussi violent, et d'autant que Monsieur Sarkozy va tomber de encore plus haut que la plupart des gens. Maintenant, vous savez, quand j'ai appris la condamnation de Monsieur Sarkozy, oui, quelque part, c'est triste pour l'image de la France, parce que c'est un ancien président de la République. Mais quelque part, la moralisation de la vie politique française, c'est quoi? C'est que finalement, les politiques doivent être exemplaires et être injusticiables comme les autres. Maintenant, les peines avec exécution provisoire, ça arrive assez régulièrement quand même. Des gens se retrouvent en prison pour le cadre de simples enquêtes, avec tous les 4 mois des mandats de dépôt qui sont reconduits. Et parfois, la France est aussi montrée du doigt parce que bah, finalement, des gens peuvent rester 2, 3, 4 ans en prison, alors que le taux de détention, c'est maximum 3 ans. Alors maintenant, parce que c'est Nicolas Sarkozy, parce qu'il représente... Non, moi, je ne suis pas d'accord. Maintenant, oui, il y a un choc. On est dans l'émotion. On est en train de juger l'émotion. Mais après, il va falloir laisser aussi l'homme face à lui-même, face à son destin. Ça va être tout autre chose. Oui, et en prison, beaucoup. Vous savez, on parlait de drogue. Il y a beaucoup de cannabis qui circule. Mais parce qu'on achète la paix sociale aussi.
Oui.
La paix sociale. Oui. Parce qu'il n'y aurait pas, tout ça en prison. Ce serait beaucoup plus dangereux, beaucoup
Nicolas Sarkozy,
plus
compliqué. Il n'y aurait évidemment beaucoup à dire. Il ne carbure au chocolat. Donc, oui, au c'est vrai que là, pour lui, ça va être difficile
une drogue,
de faire venir le petit chocolat.
Merci beaucoup d'avoir
merci été vraiment à vous.
Avec
merci.
Nous sur ce plateau. Merci.